Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers frères et bien chers amis, c'est aujourd'hui le troisième dimanche de Carême. Et l'Église insiste dans l'épître de Saint Paul aux Éphésiens, chapitre 5, sur la vertu de pureté, l'esprit de pureté. Et je voudrais reprendre certains de ces textes de Saint Paul, de ces phrases de Saint Paul magnifiques, pour nous rappeler que si l'impureté marche avec la révolution, la pureté, la chasteté, elle marche avec la contre-révolution. Il n'est pas possible d'être un authentique contre-révolutionnaire sans avoir un grand, grand amour pour la vertu de pureté, sans avoir un grand, grand amour pour la vertu de chasteté, sans donner à nos enfants, dès qu'ils sont tout petits, la vertu de pudeur qui va leur permettre de protéger cette vertu de chasteté. Pas de pudeur, pas de chasteté, pas de chasteté, pas de pureté. Voilà ce que nous dit Saint Paul. Il insiste lourdement que la fornication et toute impureté ou l'avarice ne soient pas même nommées parmi vous comme il convient à des saints. Non plus que ce qui est déshonnête, les propos insensés, les paroles bouffonnes, toutes choses qui sont malséantes. Car, sachez-le bien, aucun fornicateur, aucun impudique, ce qui est une idolâtrie, n'a d'héritage dans le royaume du Christ et de Dieu. Que personne ne vous abuse par de vains discours, car c'est à cause de ces vices que la colère de Dieu tombe sur les hommes rebelles. Je pense que si vraiment nous en sommes là où nous en sommes actuellement en France, c'est un châtiment du bon Dieu. Et ce châtiment du bon Dieu, à savoir l'abomination, la désolation dans le sanctuaire, l'apostasie généralisée en France, est une conséquence de l'esprit d'impureté qui a commencé à se développer surtout depuis la révolution de 1968. Et donc il nous faut, mes bien chers frères, impérativement réagir dans notre façon de penser, surtout pour que notre intelligence ne soit pas contaminée par ces miasmes d'impureté. Rappelons-nous le proverbe, le poisson pourrit toujours par la tête. La tête, c'est l'intelligence. Une fois que l'impureté est rentrée dans l'intelligence, rentrée dans le système que le bon Dieu nous a donné pour atteindre le vrai, nous nous retrouvons dans l'impossibilité d'atteindre ce vrai, et du coup nous allons nous mettre en traîne derrière le démon et ses sbires et son armée. Cela demande un certain nombre de sacrifices, mes bien chers frères. Je pense que la première étape, me semble-t-il, c'est de lutter contre la vulgarité. Cette vulgarité qui ouvre la porte à l'impureté. Un cœur qui a su résister à la vulgarité est un cœur qui aura peu de problèmes pour se maintenir dans la pureté. Il faut donc aussi, je crois, faire très attention à la contamination par Internet. Préparer nos enfants, ne pas leur laisser de connexion Internet sans une supervision très forte de la part des parents. La plupart des impuretés se répandent aussi dans le cœur des adolescents par le biais des réseaux sociaux, Facebook et autres. Et donc, je crois qu'il faut que les parents réagissent là aussi, que les jeunes réagissent pour arriver à se sortir de ces réseaux sociaux, pour ne pas tomber dans la tentation de suivre le courant de ces égouts qui mènent en enfer. Il importe aussi, surtout pour les jeunes filles, mais aussi pour les femmes en général, et aussi pour les hommes, à leur place, de réagir dans la façon de s'habiller. Comment voulez-vous qu'une femme, qu'une jeune fille qui est habillée comme une prostituée à longueur de journée puisse garder son cœur pur? C'est impossible. Alors, il faut réagir, il faut s'habiller correctement, s'habiller avec dignité, s'habiller avec beauté. Que les femmes redeviennent des femmes, que les hommes redeviennent des hommes, pour que justement la société qui est fondée justement sur la famille puisse reprendre son chemin vers le bon Dieu. Pourquoi est-ce que vous croyez que le démon a tellement travaillé avec l'impureté aujourd'hui? parce qu'il sait qu'un cœur impur est incapable de voir Dieu. Je vais vous citer quelques phrases magnifiques de Mademoiselle Lusquenette dans son livre extraordinaire que je vous conseille beaucoup, L'éducation de la pureté. Il a été réédité il y a peu de temps par l'abbé Belmont. Si vous n'avez pas lu, lisez ce livre. Nous n'élevons pas l'enfant, disait-elle, pour qu'il soit pur. Nous nous gardons, nous nous purifions pour l'amour d'un seul. Je garde mon cœur pur pour voir Dieu. Les cœurs purs sont heureux parce qu'ils verront Dieu. Et plus loin, elle a une magnifique citation. La voici, je vous la donne. La corruption générale installée dans l'Église est un moyen providentiel pour rassembler les chrétiens fidèles de toute l'Europe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand nous vivons dans un siècle de putréfaction, il n'y a pas d'autre mot à utiliser, cela permet aux âmes vaillantes, aux âmes chrétiennes, aux âmes qui veulent devenir des héros de la foi catholique, de montrer publiquement leur attachement à notre Seigneur Jésus-Christ. Un petit peu comme les siècles de corruption au début de l'histoire de l'Église, entre la première persécution de Néron, et en 67, jusqu'à la persécution de Dioclétien en 313, eh bien, ces siècles de persécution, il y a eu 10 persécutions, presque 14 millions de martyrs, d'après l'historien d'Arras, eh bien, ces persécutions ont permis de former des générations et des générations de martyrs qui sont allés droit au ciel. Hein. Pas oublier ça. Et c'est ça qui nous manque. Il nous manque des martyrs. La persécution physique provoque le martyr. La persécution morale provoque l'apostasie. Alors, il nous faut réagir, mes bien chers frères. Donc, que chacun, pendant ce temps, carême, fasse un peu son examen de conscience. D'abord, les jeunes filles qui ont un rôle énorme dans ce domaine-là, mais aussi les parents des jeunes filles, qui sont responsables d'un péché de scandale épouvantable, parce que si les jeunes filles s'habillent comme les prostituées, la plupart du temps, c'est qu'il y a derrière un père de famille qui ne fait pas son travail, une mère de famille qui ne fait pas son travail. Et le père de famille qui est chef de famille, qui est responsable des âmes de sa famille, est encore plus responsable que la jeune fille qui se promène comme une prostituée pour faire ses courses le samedi après-midi. Donc que les parents réagissent d'abord. Qu'ils réagissent d'abord pour eux-mêmes, pour ensuite pouvoir faire réagir les enfants avant qu'il ne soit trop tard. Saint Paul le dit, il le disait il y a 2000 ans, c'est à cause de ses vices, il parle du vice d'impureté, c'est à cause de ses vices que la colère de Dieu tombe sur les hommes rebelles. Qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui? Le deuxième point qui me semble important, sur lequel je voudrais un petit peu insister, c'est dans l'évangile de ce jour, du troisième dimanche de carême. L'Église propose à notre méditation, dans ce troisième dimanche de carême, un évangile de Saint Luc au chapitre 11. En ces temps-là, Jésus chassait un démon et ce démon était muet. Et lorsqu'il eut chassé le démon, le muet parla et les foules furent dans l'admiration. Mais notre Seigneur Jésus-Christ va avertir, attention, lorsque l'homme a fort et armé garde sa maison, ce qu'il possède est en paix. Mais dit-il, celui qui n'est pas avec moi est contre moi, celui qui ne recueille pas avec moi dissipe. Et lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, n'en trouvant pas, et dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Alors il s'en va, il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui, et entrant dans cette maison, ils y demeurent. Le dernier état de cet homme devient pire que le premier. Que l'enseignement, mes bien chers frères, dans ce texte de Saint Luc. D'abord, le démon muet. Le démon muet, c'est ce démon qui nous empêche d'accuser correctement nos péchés au confessionnal. Le démon muet, c'est celui qui empêche les bonnes confessions et qui provoque les confessions sacrilèges. Soit parce que je cache volontairement un péché grave en confession, soit parce que je cache une circonstance qui m'amène au péché, et que je garde donc dans ma vie une occasion prochaine volontaire de péché mortel. Évidemment, si je le cache au prêtre, au confessionnal, le prêtre ne peut pas le deviner, il va me donner l'absolution, cette absolution sera invalide, car si le prêtre me donne une absolution alors que je garde une occasion prochaine volontaire de péché, mon absolution est invalide parce que je suis coupable d'un péché de présomption, je joue avec le feu, je joue avec le démon. Rappelons-nous, mes bien chers frères, que nous sommes en carême. Qu'il est temps maintenant, déjà maintenant, de nous préparer à notre confession pascale. L'Église oblige la confession pascale, au moins, au minimum, une bonne confession pour le temps pascal. C'est-à-dire, en fait, c'est le temps qui va depuis le dimanche des Rameaux jusqu'au dimanche après Pâques. Alors, mes bien chers frères, commençons à préparer notre confession pascale. Peut-être qu'il est bon d'écrire. Prendre un papier, d'écrire un petit peu, faire un peu une préparation, une confession générale, si c'est nécessaire. Surtout si nos confessions antérieures, antécédentes, ont été faibles. Peut-être pas invalides, mais faibles. Je vous rappelle que pour qu'une confession soit valide, il faut absolument que vous apportiez avec vous confessionnel trois choses. Confessionnel trois choses. Trois choses sont nécessaires. Il faut vous apporter d'abord la contrition, le regret de vos péchés, le regret de nos péchés, c'est valable pour moi aussi. Au moins, la contrition imparfaite, c'est regretter ses péchés par peur de l'enfer, en n'oubliant pas qu'une bonne confession transforme la contrition imparfaite en contrition parfaite. Si je rentre au confessionnal en regrettant mes péchés par peur de l'enfer, je sortirai du confessionnal, si j'ai fait une bonne confession, avec le regret de mes péchés par amour de Dieu. Mais la contrition n'est pas suffisante, il faut aussi l'accusation. En expliquant le nom, les espèces et l'espèce et les circonstances, quand les circonstances changent l'espèce du péché, puis il faut réparer. La réparation est nécessaire, pas simplement de faire la petite pénitence que vous donne le prêtre, mais vous faire aussi les réparations qui s'imposent après certains péchés. Après les péchés contre la vertu de justice, par exemple, il faut réparer. Vous avez déblatéré sur le voisin des choses que vous n'aviez pas le droit de dire, pas péché grave de médisance, mais il faut réparer. Si vous avez volé quelqu'un, il faut réparer. Vous avez détruit la réputation de quelqu'un, il faut réparer. Donc attention à ce démon muet, préparons-nous, mes bien chers frères, à une confession, une bonne confession pour Pâques. Notre Seigneur Jésus-Christ, deuxième point, sur lequel il insiste dans cet évangile de Saint-Luc, « Celui qui n'est pas avec moi, il est contre moi, et celui qui ne recueille pas avec moi disciple. » Notre Seigneur Jésus-Christ n'accepte pas, mes bien chers frères, de partager sa gloire avec un faux Dieu. Il ne partage pas sa gloire avec le démon. Ou notre Seigneur Jésus-Christ, ou le démon. Si vous suivez le démon, c'est les honneurs, c'est les richesses et c'est l'orgueil. Si vous suivez notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la pauvreté, le mépris et l'humilité. Si vous suivez le démon, ce sont les trois mots de la révolution, liberté, égalité, fraternité. Si vous suivez notre Seigneur Jésus-Christ, ce sont trois autres mots complètement différents, pauvreté, chasteté, obéissance. Nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Donc attention, celui qui n'est point avec moi est contre moi. On ne peut pas être au milieu, mes bien chers frères, entre le monde et notre Seigneur Jésus-Christ, où l'on appartient au monde, coréam, où l'on appartient à notre Seigneur Jésus-Christ, coréam. Le problème, c'est que beaucoup de fidèles catholiques, même parfois dans la tradition, considèrent qu'ils doivent appartenir coréam à notre Seigneur Jésus-Christ simplement le dimanche, depuis 10h à 11h30 du matin, et puis pendant la semaine, ils suivent le monde. Celui qui prétend appartenir à notre Seigneur Jésus-Christ que le dimanche de 10h à midi est un ennemi de notre Seigneur Jésus-Christ qui n'a rien à faire dans l'armée catholique. En fait, il appartient à l'armée de la contre-église, à l'armée maçonnique, à l'armée républicaine d'aujourd'hui. Attention, mes bien chers frères. Nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Ou on aimera l'un et on haïra l'autre, ou on haïra le premier et on aimera le second. N'oublions pas, mes bien chers frères, la phrase magnifique que Saint Rémy, vous connaissez cette phrase, celle qu'il a dite au roi Clovis, au moment de son baptême pour la nuit de Noël 496 à Reims. Saint Rémy lui a dit, « Courbe la tête, fière Sicambe, brûle ce que tu as adoré, adore ce que tu as brûlé. » Voilà ce que nous répète notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui n'est pas avec moi, qui ne recueille pas avec moi, disciple, est-ce que je recueille avec notre Seigneur Jésus-Christ ou est-ce que je cherche malheureusement à recueillir les choses du monde? Voilà ce qu'il faut, la question qu'il faut que je dois me poser. Et n'oublions pas que si je fais sortir un démon de mon esprit, c'est le troisième point important de cet évangile de Saint-Luc, si je fais sortir le démon de mon esprit, mais que je ne prends pas les moyens pour être sûr qu'il ne revienne pas, il va revenir avec sept démons pires que lui, sur les sept péchés capitaux, qui ouvrent la porte à toutes sortes de malheurs spirituels. Est-ce que je prends les véritables moyens pour être sûr de ne pas repécher? Est-ce que je prends les moyens pour être sûr de ne plus offenser le bon Dieu? Certes, il ne faut pas non plus tomber dans le découragement. Même si j'ai le malheur de retomber, il faut que j'aille me reconfesser tout de suite, justement, pour ne pas rester dans le péché mortel. Enfin, tiens, un dernier point sur lequel je voudrais insister. À la fin de l'évangile d'aujourd'hui, il advint tandis qu'il disait ces choses, qu'une femme élevant la voix du milieu de la foule lui dit « Heureux le saint ». Et qui vous a porté et les mamelles qui vous ont allaité. Mais il répliqua, heureux plutôt celui qui écoute la parole de Dieu et qui la garde. Quel est celui, mes bien chers frères, qui écoute la parole du bon Dieu et qui la garde? C'est celui qui met en œuvre la loi du bon Dieu, les dix commandements de bon Dieu. La foi ne suffit pas. Le démon, nous dit Saint Jacques, il a la foi, il trempe. Le démon, il a la foi. La foi ne suffit pas au salut. Les protestants qui disent cela. Les protestants, ils pensent que la foi seule sauve. On est sauvé par la seule foi. Non. Il y a des bandits des bandits de grand chemin qui ont la foi. La foi ne suffit pas. Il faut que la foi soit vivifiée par une autre vertu, qui est la vertu la plus importante de l'arsenal catholique, à savoir la vertu de charité. Si je n'ai pas la charité, rappelez-vous le texte de Saint Paul, si je n'ai pas la charité, je suis comme une cymbale qui retentit au loin. Même si je donne mon corps pour être brûlé pour les pauvres, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. C'est exactement cela que veut dire la phrase de notre Seigneur. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Celui qui garde la parole du bon Dieu, c'est celui qui vit en état de grâce. Qui garde en lui la Sainte Trinité. L'état de grâce est le plus grand trésor qu'on puisse posséder dans une âme. Est-ce que je suis en état de grâce? Est-ce que je veille à ce que mes enfants soient en état de grâce et qu'ils restent en état de grâce? Est-ce que j'ai la véritable charité? Encore une fois, la foi seule ne suffit pas. Même s'il y a l'espérance avec la foi, il faut la charité. La charité, elle est la forme, en quelque sorte, de la foi. Une foi sans charité, dit saint Thomas d'Aquin, c'est une foi informe. C'est comme une branche d'arbre, si vous voulez, qui est toujours sur l'arbre, mais le canal par lequel passe la sève, qui doit nourrir la branche, est bloqué. Parce qu'il y a un obstacle sur ce canal. Il y a un obex, comme disent les théologiens. Il y a un obstacle. Et à cause de cet obstacle, la sève ne peut plus monter dans cette branche. Alors cette branche va se dessécher, et si on n'enlève pas rapidement l'obstacle, qu'est-ce qui se passe? La branche qui est desséchée va devenir de plus en plus faible, et puis quand il y a une tempête, un gros coup de vent, on entend un grand crack, et c'est la branche qui tombe. Une fois qu'elle est tombée, qu'elle est détachée du tronc, c'est fini, c'est terminé, il n'y a plus rien à faire. Elle meurt. C'est pareil pour notre âme, mes bien chers frères. Est-ce que je suis attaché fermement à notre Seigneur Jésus-Christ? Par la grâce de la vertu de charité? Est-ce que je maintiens cette vertu de charité en mon âme par la prière, l'esprit de pénitence? Est-ce que je jeûne avec force pendant le carême, comme l'Église me le demande pour tous les jours de carême? Est-ce que je garde mon chapelet au moins pendant le carême, pour montrer à la Sainte Vierge Marie que je l'aime et pour lui demander les protections nécessaires pour que je puisse garder justement cette charité? Il est beaucoup plus facile de garder la vertu de charité dans son âme quand on prie son chapelet tous les jours, quand on ne prie jamais. C'est absolument évident. Alors demandons, mes bien chers frères, demandons à la Sainte Vierge Marie, elle qui n'a jamais commis le moindre péché, demandons-lui de nous aider à comprendre l'importance justement d'écouter la parole du bon Dieu et la garder par la vertu de charité. Alors, ma foi va devenir une foi formée. C'est comme, si vous voulez, une lampe à huile qui va brûler parce qu'il y a de l'huile. Si j'ai plus la charité, il n'y a plus d'huile. La charité, c'est l'huile de la lampe. Alors demandons à notre Sainte Vierge Marie de nous aider à bien profiter du carême. Et si peut-être j'ai mal commencé ce carême par manque de générosité, peut-être, et bien demandons à notre Sainte Vierge Marie de nous aider à nous reprendre en main maintenant pour que nous arrivions bien mieux préparés à la grande semaine sainte qui arrive maintenant très vite. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.